Nous allons partager la parole de Dieu et continuer sur ce sujet qui nous préoccupe, à savoir le repos. Vous savez que c'est un commandement, Jésus a dit, « Empressons-nous d'entrer dans ce repos ». Jésus a promis qu'il nous donnerait le repos. Et je voudrais donc poursuivre sur ce sujet pour nous aider à chacun d'entre nous à vivre cette année que nous allons entamer dans un véritable repos. Ce qui est la volonté de Dieu. Dans Matthieu, au chapitre 18, au verset 3, Jésus s'adresse aux disciples qui sont de véritables serviteurs de Dieu. Et pourtant, il y a des domaines, vous voyez, qu'ils n'ont pas encore saisi, la façon de s'occuper des enfants, la façon d'approcher les enfants. Et même si nous sommes des chrétiens, même si nous sommes des disciples, même si nous sommes des serviteurs, il y a des domaines dans lesquels nous avons encore besoin d'apprendre. Il faut l'accepter. Qui que nous soyons, nous avons besoin d'apprendre. La preuve, dans Matthieu chapitre 18, au verset 3, Jésus donc fait cette remarque, ce reproche, comme vous le voudrez, à ses enfants. « Je vous le dis en vérité. » Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Après, il engage sur un autre sujet. Deuxième lecture, Jean chapitre 10, verset 11. Jean chapitre 10, verset 11. Vous connaissez ce texte où Jésus exprime ce qu'il est. C'est important pour nous que nous sachions ce qu'est le ministère du Seigneur. Jésus dit ceci, Jean chapitre 10, verset 11. Nous y reviendrons tout à l'heure normalement dans la conclusion. « Je suis le bon berger. » Vous le croyez ça, frères et sœurs ?« Je suis le bon berger. » Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Nous passons au verset 27. « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Amen. » Combien ces paroles sont rassurantes. Vous l'êtes, je vois qu'il y a plusieurs parmi nous qui sont fatigués. Je ne suis pas le seul à tousser. Le Seigneur a dit que ce sont ceux qui écoutent avec un cœur honnête et bon, qui retiennent et qui portent du fruit. Vous l'avez lu dans la parole de Dieu ? Il l'a dit. Il y a plusieurs textes où il nous est parlé du terrain et Jésus dit que ce sont ceux qui écoutent et qui retiennent, qui portent du fruit. Je vais vous demander de répondre honnêtement à cette question. Vous avez remarqué que depuis un mois que j'ai repris, j'ai posé plusieurs fois des questions, c'est pour nous aider à nous situer, où nous en sommes vraiment avec le Seigneur. Vous le savez bien, ce n'est pas parce que nous sommes dans un lieu de culte que nous sommes vraiment spirituels, mais c'est en répondant à certaines questions que nous pouvons nous situer. Votre vie spirituelle, de quoi est-elle faite ? Est-elle faite de calme, de paix, de quiétude ? Ou au contraire, votre vie spirituelle est-elle remplie de malaise, de troubles ou de crainte ? C'est important pour avancer que l'on puisse, sans esprit de jugement, mais pour mieux se situer, que l'on puisse vraiment répondre. Heureux êtes-vous si vous pouvez dire, ma vie, malgré mes luttes, mes chagrins, etc., ma vie est faite de paix et de calme. Parce que ça n'a rien à voir avec les épreuves. On y reviendra. Mais peut-être que votre vie ne va pas bien, pas pour d'autres raisons, et que votre vie est troublée, pleine de malaise, pleine de doutes, c'est grave. Et c'est grave parce qu'on n'est pas le chrétien que Dieu voudrait que nous soyons. Et surtout, voilà, nous nous faisons du mal, mais surtout nous pouvons faire du mal aux autres en n'étant pas les croyants que Dieu voudrait que nous soyons par rapport au témoignage. Alors, vous avez entendu ce matin les prières, les louanges, vous avez entendu chacun qui s'est exprimé et qui a parlé d'un des attributs du Seigneur. L'un a dit « tu es l'étoile du matin », l'autre, Jean-Jean a dit plusieurs fois « tu es la lumière, tu es la vie, tu es la paix ». Chacun qui avait loué le Seigneur et vous qui l'avez fait intérieurement, vous avez certainement peut-être cité tous les attributs que nous connaissons au Seigneur Jésus-Christ. Mais pour vous ce matin, quel est l'attribut qui pour vous représente le mieux le Seigneur Jésus ? Vous qui le connaissez depuis un an, deux ans, dix ans, vingt ans, trente ans, quel est l'attribut qui vous parle le plus ce matin ? Vous voyez, cette jeune fille tout à l'heure a dit « Seigneur, tu es pour moi l'étoile du matin ». C'est une expression que Jésus utilise dans l'Apocalypse pour expliquer qu'un jour nouveau va venir et qu'un temps nouveau va venir. Ce sont des attributs, bien sûr, choisis par Dieu, importants. Alors que c'est quoi pour vous? Vous pourriez dire c'est quoi pour vous? Le bon berger? L'amour? La paix? Il y en a à peu près 150. J'ai cru que Jean-Son était parti ce matin pour nous les citer tous les 150. Et je m'en réjouissais d'ailleurs. Alors chacun a un attribut, parce qu'à un moment donné, on traverse le deuil et l'affliction. Peut-être que le consolateur, c'est celui qui va nous toucher le plus pendant quelques semaines. Voyez, ainsi de suite. Mais s'il y a bien un attribut qui est capable de nous bénir, de nous consoler, de nous rassurer, c'est bien le bon berger. Le Seigneur Jésus a voulu se présenter comme le bon berger. D'ailleurs, on va lire à cet égard le psaume 23, que nous croyons certainement connaître par cœur. Alors, est-ce que vous êtes dans cette catégorie où vous dites, moi, je connais le psaume 23 par cœur? Connaissez-vous le psaume 23 par cœur? Oui? Alors, on peut le connaître par cœur et ne pas forcément bien le vivre, vous voyez? Psaume 23. On va le lire. On comprendra mieux la prédication, on comprendra mieux tout ce qui va être dit. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Que de choses n'ont pas été écrites sur ce psaume. Que de livres n'ont-ils pas été écrits sur ce psaume? N'oublions pas une chose. C'est Dieu qui parle. Vous savez, Dieu aurait pu se présenter comme nous le voyons dès le début, comme l'Éternel, Yahvé, je suis celui qui existe par lui-même. Point, c'était fini. Dieu se présentait chaque fois comme Yahvé. Vous comprenez bien que si Dieu s'est présenté de 150 manières différentes, ce n'est pas pour lui, c'est pour nous. Il n'avait pas besoin, lui, de dire qu'il est tout cela. Nous en avions besoin. C'est Dieu qui le dit. Nous en avons absolument besoin. Et si beaucoup de chrétiens passent à côté de cette faveur divine, c'est parce qu'ils n'ont pas compris la profondeur de chacun de ses attributs. J'ai compris quelque chose au fur et à mesure que nous avançons avec Dieu, c'est que les plus grandes vérités, écoutez-moi bien, les plus grandes vérités sont dans les versets les plus simples de la Bible. Souvent nous attendons des révélations, de grandes révélations. Il y a des gens au milieu de nous parfois qui peuvent être mystiques et qui attendent que Dieu d'une manière bizarre leur parle. Rappelez-vous ce verset que j'ai cité pour commencer cette série. Ces choses, c'est Jésus qui parle, ont été écrites afin que vous ayez la vie et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Ces choses ont été écrites afin qu'en croyant, vous ayez la vie. Il n'y a pas besoin de méga révélation. Je crois que Dieu, dans sa bonté, peut se révéler. C'est bien. Mais vous savez, je crois que la parole de Dieu suffit afin d'avoir la vie, pour avoir la vie. C'est ce qui est écrit dans l'évangile de Jean au chapitre 20 au verset 31. Alors ces textes si importants, si profonds, comme le psaume 23, comme ceux que l'on vient de lire dans l'évangile de Jean, etc. Que sont-ils devenus pour nous? Nous qui les lisons, que nous les lisions depuis un an, que nous les lisions depuis des décennies, que sont-ils devenus pour nous? Est-ce qu'ils sont trop familiers? Est-ce que le psaume 23 pour vous est trop familier? Vous le connaissez par cœur, donc bon, ben, j'ai pas besoin qu'on me parle du psaume 23, moi je le connais par cœur, donc pour moi je mets ça de côté, il me faut quelque chose de plus important. Oui, il me faut quelque chose de plus important, moi j'ai besoin d'autre chose que du psaume 23. Est-ce qu'on a trop entendu prêcher là-dessus? Je ne sais pas. En tous les cas, j'ai compris, il y a longtemps de cela, pourquoi Paul a dit aux Corinthiens, j'ai peur que vos cœurs ne se détournent de la simplicité de Christ. Paul souffrait dans son cœur et soupçonnait que beaucoup de chrétiens se détourneraient de Christ par rapport justement à ce manque de simplicité. Je crois que c'est important d'apprendre des psaumes par cœur. Est-ce que vous avez appris des textes par cœur? Est-ce que vous connaissez des versets par cœur? Oui, vous avez appris des textes par cœur? Oui, c'est bien. Mais je crois que ce qui est important surtout, c'est de garder un cœur d'enfant. C'est pour ça qu'on a lu ce texte dans Matthieu 18. Si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. N'oubliez pas qu'il était en train de parler aux 12 qui avaient déjà de l'expérience, qui avaient déjà reçu beaucoup. Mais pourtant, Jésus nous demande de garder un cœur d'enfant. Vous l'avez-vous gardé ce cœur d'enfant? C'est important. C'est bien d'avoir un cœur simple, un cœur de vrai, parfois naïf, on pourrait dire. L'autre jour, on avait une discussion avec des frères et on parlait de Joseph. Vous savez, Joseph le patriarche. Et certains disaient que Joseph était orgueilleux et d'autres disaient que Joseph était naïf. Parce qu'il a raconté ses songes, vous savez, à ses frères. Alors d'après vous, est-ce qu'il était naïf ou est-ce qu'il était jaloux? Orgueilleux. Moi, je pense que Dieu n'utilise pas les orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Mais je pense qu'il était naïf. Et je crois que Joseph, malgré l'homme qu'il est devenu, a toute sa vie gardé un cœur d'enfant. Et je crois que c'est bien. C'est bien que nous demandions au Seigneur ce cœur-là. C'est important. Le psaume 23, nous le connaissons. C'est bien d'utiliser ce sujet sur le repos, en même temps d'utiliser le psaume 23. Qui ne connaît pas le psaume 23? Qui ne le connaît pas par cœur même? À l'école du dimanche, certains l'ont appris par cœur. Et pourtant, je ne sais pas si nous avons compris la signification de ce psaume. Je ne sais pas. Je ne sais pas si vraiment nous comprenons ce que nous lisons. L'Éternel est mon berger. Que raconte ce psaume pour vous? Vous voyez, vous pouvez le lire ce soir avant de vous coucher. Peut-être que dans un film, vous l'entendrez même. Vous savez, dans un service d'inhumation, vous savez, même dans les films, on entend régulièrement aux États-Unis, bien sûr, ce psaume est cité. Peut-être que vous l'entendrez justement dans le prochain service d'inhumation, etc. Est-ce que c'est un psaume qui est juste utilisable pour les services d'inhumation? Qu'est-ce qui raconte ce psaume pour vous? Tout à l'heure, je vous ai posé une question, je vous en pose une autre. Qu'est-ce que c'est ce psaume? C'est le psaume 23? C'est un poème? C'est un chant? C'est un texte biblique? L'expérience que David, le berger David, a pu faire, ah ouais, c'est l'expérience de David, cet homme selon le cœur de Dieu. Ou est-ce que c'est votre histoire? On a un vieux cantique qu'on chante parfois, c'est mon histoire et c'est mon chant. J'aime ce cantique parce qu'il fait qu'on s'identifie véritablement aux paroles. Mais oui, c'est mon histoire. Voilà, moi j'ai de l'assurance. C'est mon histoire à moi. Ce cantique, il est pour moi. Vous voyez? Et je crois que c'est une bonne chose. Mais le psaume 23, est-ce que c'est le psaume de David? Est-ce que c'est un psaume? Ou est-ce que c'est l'histoire de votre foi à vous? Celle que vous avez reçue en lisant la parole de Dieu. Car j'avais marqué sur mes notes de lire en premier ce texte des Romains lorsqu'il dit « Mais que chacun ait en son esprit une pleine conviction ». C'est important d'avoir une pleine conviction. Est-ce que ces paroles sont trop simples pour vous? Ou est-ce que nous n'avons pas assez de maturité, de bon sens pour en saisir la profondeur? Qui a saisi la signification de ce psaume? Ce matin, qui peut dire « J'ai saisi vraiment la signification de ce psaume, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Qui peut dire ce matin « Oui, parce que je suis devenu un de ses enfants », c'est pas une question d'être catholique ou évangélique, « je suis devenu un enfant de Dieu, je peux vivre, je peux dire, je ne manquerai de rien ». Heureux êtes-vous si vous pouvez terminer l'année, comme certains l'ont dit tout à l'heure dans leur louange, je sais qu'il est mon Seigneur. Quelqu'un l'a dit, qu'il était son berger. Heureux, oui, c'est le Créateur du ciel et de la terre. Est-ce que ça vous rassure qu'il soit le Créateur du ciel et de la terre? Est-ce que ça vous rassure que Jésus ait dit, que Dieu ait dit, alors si on parle là-dedans, on n'est pas fini, que Dieu ait dit, les nations sont dans ma main, sont dans, comme des gouttes dans un seau. C'est écrit ou c'est pas écrit? Pourquoi Dieu a dit ça? Les nations sont comme des gouttes. Les nations, bon, c'est quand même, ça fait un volume quand même. Les nations sont comme des gouttes dans un seau. Est-ce que le Seigneur voulait nous en mettre plein la vue? parce que ça fait quand même. La terre est mon marchepied. Le ciel est mon trône. La terre, mon marchepied. Bon, la terre, ça fait un grand pied quand même. Enfin, pourquoi Dieu a dit ça? Pour nous rassurer. Pourquoi Dieu a dit, je suis le bon berger. Je suis le berger d'Israël. Je suis le bon berger. Pourquoi? C'est pour nous. Parce qu'on a besoin d'être rassuré. On a besoin. Vous n'avez pas besoin d'être rassuré? Qui n'a pas besoin d'être continuellement rassuré? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Oh non, moi non, mes frères et sœurs, si nous gardons le cœur d'enfant, soyons honnêtes, nous avons besoin d'être rassurés. Ce Dieu-là, pour qui la terre et le marchepied peut devenir mon berger. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, le Seigneur est mon berger? Est-ce qu'il a dit ça? Tiens, c'est joli, je vais leur dire que je suis le bon berger, ça fait joli. Ou est-ce que Dieu voulait nous enseigner qu'à cause de cet attribut, véritablement, il prendrait soin de vous? C'est ça que Dieu veut dire. Quand Dieu dit « je suis le berger », il dit « voilà, je m'engage à prendre soin de vous ». Vous pouvez dire « je sais que Dieu prendra soin de moi ». Il me gardera comme un berger garde ses brebis. Je comprends vraiment pourquoi Dieu nous demande d'avoir un cœur d'enfant. Parce que tout ça, il faut le croire avec un cœur d'enfant. Puisqu'il le dit. C'est quoi le plus important? J'ai insisté dans plusieurs prédications. C'est quoi qui est important? Ce que vous pensez ou ce que Dieu dit? Ah, si nos cœurs étaient simples. Si nos cœurs voulaient l'accepter, nous serions remplis de consolation. Car croyez-moi, les temps qui viennent sont difficiles. Même si nous savons qu'en 2013, Dieu sera fidèle. Là aussi, un attribut qui nous rassure. Est-ce que vous croyez que Dieu est fidèle? Il est fidèle. Il ne peut pas ne pas être fidèle. Nous, des fois, on veut être fidèle. Et pourtant, dans un domaine ou dans un autre, on peut se louper. Mais si nous croyons vraiment que déjà, ce qu'il est lui, parce que nous sommes, mais s'il est le bon berger, vraiment s'il est le bon berger pour chacun d'entre nous, je suis persuadé que bien des craintes disparaîtraient. Que bien des chrétiens ne vivraient pas dans cette peur, dans cette angoisse et cette peur du lendemain. Oui, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Avons-nous besoin d'autre chose? Qu'avez-vous besoin en 2013 de plus? Est-ce que vous voulez une plus grande révélation? Quelque chose de plus compliqué? Quelque chose de plus grand? Est-ce que ce verset peut suffire dans les moments difficiles que nous allons traverser? Car nous traverserons des moments difficiles, tous. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que Jésus l'a dit, vous aurez des tribulations? Vous le savez, on traverse tous des moments difficiles. Et ce n'est pas parce qu'on traverse des moments difficiles que ça ne va pas. Ça, c'est une ânerie de dire, voilà, tout va bien, tout va très bien, je suis béni. Vous pouvez être béni dans des moments difficiles, vous pouvez être béni dans des moments de paix, etc. Ce qui est important, c'est sa paix. C'est véritablement sa paix. De quoi votre cœur est rempli? Ce matin, vous êtes là sous le regard de Dieu, on vient de prendre la Sainte-Cène, c'est des moments privilégiés quand même, de pouvoir venir dans la maison du Seigneur. Bon, de quoi votre cœur est rempli? Vous avez des convictions, oui ou non? Vous avez des convictions, c'est une prédication, la parole de Dieu peut vous provoquer des convictions. Mais comme cela a été dit tout à l'heure, comme disait notre frère Sinarinzi, qui écouterons-nous? Est-ce que nous écouterons la voix du bon berger qui veut nous encourager, nous aider, etc. Ou est-ce que nous écouterons la voix de l'ennemi? Vous savez ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Adam n'avait pas de difficultés et pourtant, ils ont écouté la voix du diable. Ils ont préféré la parole de Satan à la parole de Dieu. Vous pouvez l'interpréter comme vous voulez, mais ils ont fait ce choix. Alors, quel choix faisons-nous? Nous qui sommes là ce matin dans la maison du Seigneur, quel choix allons-nous faire pour que nos cœurs, justement, soient remplis? Et si je voulais lire avec vous ce verset dans Romains 14, 5, que chacun ait en son esprit une pleine conviction, c'est important. C'est important la foi des autres. Est-ce que c'est important dans une église que nous exhortions dans la foi? Est-ce que c'est écrit de s'exhorter dans la foi? La foi des autres, c'est bien, mais la foi personnelle, c'est mieux. Il y a des gens qui vivent continuellement avec la foi des autres. Ah, ils sont contents quand les chrétiens leur font du bien. Oh, j'ai passé 2 heures avec tel frère. Ah, oh, ça m'a fait du bien. Oh, j'ai passé 2 heures avec telle sœur. Bon, c'est pas obligé à tous les coups. Hein. Mais on peut se faire du bien avec des frères. Oui ou non? Mais quand même, mes frères et sœurs, si nous devons nous exhorter les uns les autres, il est quand même dit que le juste vivra par sa foi. Et que, merci Seigneur pour les convictions des autres, qui sont belles et bibliques, mais il faut quand même que nous arrivions à avoir chacun nos propres convictions. Donc, pourquoi Dieu a-t-il décidé de dire qu'il serait le bon berger? Je l'ai dit tout à l'heure, il n'était pas obligé. Dieu n'était pas obligé de nous dire qu'il serait la résurrection et la vie. Est-ce que Dieu était obligé de nous le dire? Non. Réfléchissez. Dieu n'était pas obligé. Mais il a voulu précisément que nous le sachions. C'est important. En plus, si vous avez lu Jean chapitre 10, il rajoute des précisions pour nous rassurer. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ça vous rassure? Est-ce que ça vous rassure de savoir que Jésus-Christ a donné sa vie pour vous bénir, mais qu'il continuera à vous bénir, car s'il a donné sa vie sur le bois de la croix, à combien plus forte raison ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Nous savons ce que ça représente quand nous prenons la Sainte Cène dans une église normalement constituée. Quand on prend la Sainte Cène, on est tous conscients de ce qui s'est passé au calvaire. Mais nous qui sommes là ce matin, qui abordons ce sujet pour vivre, pour entrer dans le repos ou pour y rester, comment parlez-vous de votre berger? De votre bon berger, pas du pasteur de l'église qui n'est qu'un homme, qui est aussi appelé par Dieu un berger. Mais enfin, on ne peut pas comparer le berger que Dieu met dans une église avec ses failles, ses manquements, ses faiblesses, etc., avec le souverain berger qui, lui, ne vous trompera jamais. Bon, c'est vrai que Dieu souvent, et je vais le faire pour qu'on comprenne bien ce que lui est et comment Dieu parle des faux bergers dans la parole de Dieu. Je vous assure que vous allez frémir quand vous allez voir comment Dieu parle des faux bergers, ces mercenaires, etc. J'avais pensé le mettre sur mes notes, mais ça aurait fait trop. On le fera, on mettra en comparaison les attributs du berger, la manière dont Jésus s'y prend avec nous, et la façon dont les bergers humains s'y prennent avec les hommes. Je vous assure, je comprends pourquoi, dans sa sévérité, Dieu a fait des reproches aussi sévères envers les bergers humains que nous sommes. Mais comment parlons-nous de lui? Comment parlez-vous de votre berger à vous? Pas de votre pasteur de Sainte-Agne, mais du grand berger. Comment parlez-vous de votre Seigneur? Ça vous arrive d'en parler? Ça vous arrive d'en parler entre nous déjà, à des amis. Comment parlez-vous de votre berger? Est-ce que vous, quand vous parlez de votre berger, vous honorez son nom? Ou est-ce que vous êtes tout le temps en train de vous plaindre? Est-ce que ça arrive, ça, que des chrétiens soient toujours en train de se plaindre? Je parlais dimanche dernier d'une chrétienne, j'ai voulu en savoir un peu plus, j'ai compris. Elle m'a dit, mais je suis découragée. Ah, j'ai dit, eh bien, je comprends pourquoi vous êtes toujours en train de décourager les autres. Mais c'est la vérité. Si on est découragé, il ne faut pas rêver. On a beau le prendre sur soi, on finira par déverser ce que l'on est vraiment. Il ne faut pas rêver. Mais une chose est sûre, le Seigneur est notre berger. Bien sûr que nous avons des moments difficiles. Il y a le psaume 23, mais il y a des psaumes que David a écrits où justement il se plaint. Est-ce que vous avez jamais vu des psaumes où David exprime sa souffrance, sa peine? Oui, ce qui prouve, c'est pas un manque de lucidité, ça peut arriver, on a des moments difficiles, mais après on se ressaisit. Mais comment parlons-nous de notre berger? Est-ce que vraiment ce berger, ce Seigneur Jésus, sera toujours le bon berger? Ou est-ce qu'il peut se tromper? Il peut passer à côté. Moi je pense que le Seigneur ne peut pas se tromper. S'il y a quelqu'un qui se trompe, c'est nous. Nous qui nous trompons. Alors, si c'est bien de comprendre pourquoi Dieu se compare à un bon berger, alors là on pourrait partir dans beaucoup d'explications, c'est bien de le comprendre. Je ne sais pas si on aura le temps de tout voir, mais c'est intéressant de voir pourquoi et comment Dieu se compare à un bon berger. Mais c'est bien aussi de savoir pourquoi il nous compare à des brebis. Parce que c'est très 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 rassurant de voir pourquoi Dieu se compare à un berger, je le répète. Mais c'est très intéressant de savoir pourquoi Dieu nous compare à des brebis. Une brebis, contrairement au berger, elle a besoin de quelqu'un. Une brebis sera toujours... Comment c'est une brebis? Comment? Naïf, oui. Une brebis, est-ce qu'une brebis... Si une brebis a besoin d'un berger, c'est qu'elle sera... Elle est dépendante, elle est faible, oui ou non? Il faut l'accepter. Il y a des brebis plus fortes que d'autres, mais d'une manière ou d'une autre, si Dieu nous compare à des brebis, il y a beaucoup, beaucoup d'analogies, mais il faut comprendre que, il faut le comprendre. que nous serons faibles, que nous aurons des moments où nous sommes fatigués, impuissants, nous ne savons pas nous diriger. Est-ce qu'une brebis sait toujours se diriger? Ben non. Dès qu'elle se retrouve seule, elle est perdue. Mais c'est un peu ce qui arrive lorsqu'un chrétien choisit de s'isoler par rapport à ses idées. J'ai l'impression qu'on ne m'aime pas, donc je me retire de l'assemblée. Quelqu'un m'a dit ça encore hier. Vous voyez, les impressions. Lorsque l'on vit, voilà, c'est la preuve combien nous pouvons être faibles. Si vous vivez d'impressions, vous êtes en train de devenir faible. Si vous dites toujours, j'ai l'impression qu'on ne m'aime pas, j'ai l'impression que je suis inutile, vous êtes sur une très mauvaise voie. Un chrétien, il vit de conviction, il ne vit pas d'impression. Bon, qu'on ait une impression, on laisse ça de côté, mais on vit de conviction. Une brebis, elle sera toujours faible, elle aura toujours besoin d'être guidée, etc. Elle aura toujours besoin de quelqu'un pour être guidée. Toute notre vie, nous aurons besoin de Jésus. Vous le croyez? L'éternité, bon, ça sera certainement dans la perfection que tout se manifestera. Mais ici-bas, quelle que soit notre force, à des moments, il faut accepter que nous pouvons même être impuissants. Est-ce que c'est écrit? Est-ce que c'est même pas rassurant? C'est pas Paul qui dit qu'il se plaît dans la faiblesse? Mais bien sûr. Mais lui, il a passé ce cap où il ne dépend plus de sa direction, il ne dépend plus de ses forces, il ne dépend plus de son secours. Ça fait que ça lui est complètement égal d'être faible. C'est pour ça qu'il dit « je me plais dans la faiblesse ». Mais un chrétien charnel, il ne va pas se plaire du tout dans la faiblesse. C'est facile à comprendre. Mais une brebis qui dépend de son berger a compris beaucoup de choses. Votre bonheur, il dépend de quoi? Est-ce qu'il dépend de l'augmentation que normalement vous aurez en 2013? Vous avez vu comment je sais parler au trésorier? Votre bonheur, est-ce qu'il dépend de vos propres forces? Ou est-ce que votre bonheur dépend de la force du Seigneur? Vous avez des forces physiques. Si vous êtes venu ce matin dans la maison du Seigneur, vous avez une certaine force. Même si ce n'est pas trop le top, il y a quand même, vous avez certaines forces, oui ou non? Mais votre bonheur, est-ce qu'il dépend de votre force ou de la sienne? Votre bonheur, est-ce qu'il dépend de votre sagesse? Vous en avez de la sagesse? Est-ce que vous en avez de la sagesse? Hier, je lisais que celui qui veut se glorifier ne se glorifie pas de sa sagesse. Bon. Bien sûr que nous, on croit ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Dieu est un bon berger. Le Seigneur Jésus est un bon berger. Mais, quand on refuse de se nourrir avec la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut se passer? Parce que il me semble que le pivot du psaume 23, c'est le verset où il est décrit, il restaure mon âme. Dieu, soyons sérieux, Dieu ne peut être le bon berger d'une personne que si cette personne prend le soin de restaurer son âme. Parce que sinon ça ne veut absolument rien dire, on est dans la philosophie. Mais Dieu a déclaré, le Seigneur a déclaré au monde entier, c'est l'assemblée de Saint-Ange, c'est au monde entier, au siècle des siècles, que Dieu a dit à l'univers entier, je suis le bon berger. Vous êtes d'accord avec moi? N'importe quelle église, toute l'église du monde entier, doit proclamer que Jésus est le bon berger. Mais quel témoignage l'église rend-elle quand les brebis ne se laissent pas nourrir? Vous allez me dire, moi je suis nourri le dimanche matin. Il y a des gens qui arrivent toute leur vie à tenir d'un dimanche à l'autre. Ils se nourrissent que le dimanche. Quelqu'un me disait, moi la Bible, je la laisse à l'église. Je la lis à l'église avec vous. C'est un choix. On ne va pas obliger les gens à lire la Bible tous les jours. Il y a peut-être des chrétiens qui arrivent à se nourrir qu'une fois par semaine. Je pense que c'est quand même dangereux. Parce que la Bible dit, veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie. Mais quel témoignage rendons-nous lorsque nous ne le laissons pas nous nourrir, lorsque nous ne le laissons pas nous soigner, lorsque nous ne le laissons pas s'occuper vraiment de nous, quel témoignage donnons-nous? C'est facile de comprendre pourquoi tant de chrétiens sont dans la crainte, dans le doute, dans la tristesse. Qu'est-ce que les gens du monde pensent? Est-ce que pour vous, ce que les gens du monde pensent, c'est important? Attention, vous ne répondez. Est-ce que c'est important? Moi, je crois que oui. Ce que les gens pensent de l'Église, qu'est-ce que les gens du monde pensent lorsque les brebis sont mal nourries? Alors, est-ce que c'est la faute au pasteur de l'église? Est-ce que c'est la faute au pasteur de l'église, la nourriture? Oui et non. Oui, dans le sens où le rôle d'un pasteur, c'est de nourrir l'église, ça c'est clair. Mais il va de soi que nous avons tous la même Bible, nous pouvons tous nous nourrir de la parole de Dieu, même si nous sommes dans une église où nous ne sommes peut-être pas suffisamment nourris. Nous avons quand même tous la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que les gens du monde peuvent penser? Cette semaine, vous avez certainement, comme moi, écouté plusieurs fois aux informations, telle dénomination qui est d'accord pour l'homosexualité, telle dénomination qui est contre. Mais les gens du monde, ils doivent se dire, mais c'est une question d'opinion. Cette affaire dans les églises, c'est une question d'opinion, puisque un homme religieux est pour, un homme religieux est contre, mais ils n'ont pas l'enseignement de la parole de Dieu. Donc le monde voit au travers d'impressions que les gens ont, que des croyants ont. Est-ce que vous vous rendez compte du témoignage que nous rendons? Nous souffrons de voir que beaucoup de pécheurs ne se convertissent pas, mais laissez-moi vous dire que l'Église, dans sa généralité, fait tout pour. Et ça, c'est quelque chose de dramatique. Et si nous ne laissons pas Dieu nous nourrir, si nous ne le laissons pas nous bénir, parce que lorsqu'un chrétien est nourri, moi je crois qu'il est vraiment béni. Lorsqu'un chrétien lit sa Bible avec son cœur, il est restauré. Il peut dire, oui, il restaure mon âme. Parce que si la parole de Dieu ne nous nourrit pas, il est hors de question de dire ou de réciter, j'en sais rien, il me conduit dans les verts pâturages, près des eaux paisibles. Non, c'est quand je lis la Bible de tout mon cœur qu'il me conduit près des eaux paisibles, qu'il me dirige près des eaux paisibles, etc., etc. Que je marche dans les sentiers de la justice. Car si votre confort à vous ne vous préoccupe pas, il me semble que nous devrions quand même penser au témoignage que nous rendons auprès des païens. Qu'est-ce que les gens pensent lorsqu'ils rentrent dans nos églises? Est-ce que c'est une question importante? Ou est-ce que vous dites, comme certains, moi je m'en fiche? Mais moi je crois que ce n'est pas du tout sérieux de dire, moi ce que les autres pensent, ça m'est égal. Et bien moi je crois que c'est important le témoignage du troupeau, dans sa totalité. Si un troupeau, je l'ai déjà dit, sous forme d'humour, mais si un troupeau est dans le désert, desséché, plein d'épines, de ronces, etc., maigre, et qu'il invite les gens à venir, venez, rejoignez-nous. On est le troupeau du Seigneur. Venez avec nous. Je comprends que quelqu'un puisse dire, non merci, j'ai pas envie de rajouter au problème que j'ai. Parce qu'il y a quand même, les gens dans le monde sont dans des problèmes graves. Et je comprends que les gens du monde n'aient pas envie de rejoindre un troupeau qui soit en mauvaise santé. Le troupeau du Seigneur doit avoir l'honnêteté d'essayer de rendre un bon témoignage. Le bon témoignage, c'est pas dire, moi j'ai pas d'épreuves, ou moi je suis malade, ah si je suis malade, j'ai pas un bon témoignage, ça n'a rien à voir. Vous pouvez être en bonne santé et rendre un bon témoignage, vous pouvez être malade et rendre un très bon témoignage, et l'inverse aussi. Ce n'est pas une question de santé ou de maladie. Bien sûr que je crois à la guérison. Mais est-ce qu'un chrétien malade peut rendre un très bon témoignage? Mais bien sûr. Et l'inverse aussi. Est-ce qu'un chrétien en bonne santé peut rendre un mauvais témoignage? Bien sûr. Mais quelle image donnons-nous au monde? C'est quand même une question que nous devons nous poser. Une année va arriver. Quel témoignage donnons-nous? Nous ne nous trompons pas parfois? Est-ce que nous ne nous trompons pas? Certains chrétiens, certains incroyants, n'ont jamais rejoint l'Église. Moi, j'entends parfois, vous aussi, on entend tous, des gens qui ont rejeté en bloc la religion. Vous en avez jamais vu? Mais ils ont raison. Ne les blâmez pas. Ils n'ont pas rejeté Dieu, ils ont tout rejeté. Ils ne veulent pas de religion. Pourquoi? Parce que le troupeau n'a pas rendu le témoignage qu'il devait. Alors les gens, comme ils ne sont pas éclairés, ils ont tout rejeté en bloc. Vous savez comme on dit, il ne faut pas jeter l'eau du bébé, le bébé avec l'eau du bain. C'est ce que les gens ont fait. Ils ont tout rejeté parce qu'ils n'avaient pas la capacité de séparer l'Église de Dieu, la parole de Dieu, des opinions des gens, etc. Mais la véritable religion, pour parler, puisque c'est biblique, la véritable religion telle que la Bible présente, ne peut qu'attirer les gens. Ils sont libres de choisir, après tout, les gens sont libres. Mais au moins, nous devrions avoir le souci de faire en sorte de vivre dans la paix. Car je crois que ce qui caractérise une église, c'est que nous soyons en paix. Parce que Dieu est un Dieu de paix. Ce n'est pas le nombre, ce n'est pas les moyens financiers, ce n'est pas ci ou ce n'est pas là. Ce qui caractérise véritablement l'Église de Jésus-Christ, c'est que nous devons vivre en paix les uns les autres. Les uns avec les autres. Que nous devons procurer aux autres la paix. C'est écrit, heureux ceux qui procurent la paix. Même dans la douleur, même dans le chagrin. Parce que certains, voyez, voilà, je dois procurer la paix, donc si je procure la paix, il faut que je sois heureux. Non. Pour procurer la paix, il faut laisser Dieu restaurer votre âme. Et que vous soyez dans une bénédiction matérielle extraordinaire, ou que vous soyez dans une maladie de longue date, vous pouvez procurer la paix aux gens. Et ne vous laissez pas avoir par les pièges du diable. Ne dites plus ce que les autres pensent de moi, ça m'est égal. Ne le dites plus. Pensons au témoignage individuel, pensons au témoignage collectif. C'est important que nous rendions un bon témoignage. Que nous ne fassions pas n'importe quoi. Que voulez-vous que les gens pensent? Que voulez-vous que les gens pensent lorsqu'ils font une démarche et en même temps ils voient des chrétiens qui rendent de mauvais témoignages? Je me souviens de ce pasteur protestant avec qui nous avions un très très bon contact. Un homme qui a dit du haut de la chair, dans son temple, qui se vidait, il a dit, il ne m'a pas répété, il a dit, les gens quittent nos temples, j'étais pasteur Albi, ça remonte à 25 ans plus même, hein. Les gens quittent nos temples pour aller dans les églises évangéliques parce qu'ils trouvent la vie. Et je l'ai revu un mois après. Il était passé devant une chrétienne, chez une chrétienne qui avait laissé sa fenêtre ouverte, qui s'était allumée grandement avec son mari. Et il m'a dit, bon, en fin de compte, je vois que vous êtes pareil. Il n'empêche qu'on ne sait pas ce qui s'est passé entre le mari et la femme, parce qu'il peut y avoir un conflit, et ça peut se régler dans la paix. Est-ce que ça peut arriver de s'attraper avec son mari? Allez, répondez-moi. Bien sûr, mais celui qui vit l'évangile, il va quand même s'excuser, d'accord, demander pardon, etc. Donc, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais il est sûr d'une chose, le chrétien a le souci de son témoignage, parce que s'il rend un bon témoignage, si une église rend un bon témoignage, elle, en vérité, elle glorifie le berger. Parce que vous avez déjà vu des troupeaux. Je ne sais pas si vous faites attention, moi, dans ma famille, il n'y avait que des paysans, et il y avait des troupeaux qui étaient en très, 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 très bonne santé, et il y avait des troupeaux qui étaient en moins bonne santé. Mais tout s'expliquait avec la façon dont mes oncles tenaient vraiment les bergeries. Et je crois que nous devons tous veiller les uns sur les autres, nous devons faire attention à notre témoignage, mais je peux vous dire que vu comment ça va dégringoler dans le monde en 2013, puisque c'est des chroniques, vous savez très bien que ça ira mal. Vous ne pouvez convertir personne. Est-ce que Dieu a dit vous êtes des convertisseurs? Non. Jésus a dit vous êtes mes témoins. Il y a une grande différence. Ne devenons jamais des convertisseurs qui poussons les gens à vouloir obtenir le salut. On ne peut pas. Si on pouvait forcer, on ferait. Si on pouvait les forcer, est-ce que vous le feriez? S'il fallait payer pour les sauver, est-ce que vous le feriez? Ben oui, mais si on pouvait. Si Jésus avait dit, voilà, bon, écoutez, Matthieu 29, j'ajoute malgré tout qu'en donnant 5000 euros par personne, vous pouvez en sauver quelques-uns. Est-ce qu'on ne le ferait pas? Mais on le ferait. Si avec 5000 euros on pouvait sauver une âme, on le ferait. Sérieusement, on ne le ferait pas, mais je suis sûr qu'on s'acharnerait à économiser le maximum pour en sauver le maximum, le plus possible. Mais c'est impossible. Je crois qu'on est des témoins. Vous êtes d'accord? Est-ce que c'est important pour vous de rendre gloire à Dieu? Et en rendant ce témoignage, on va glorifier le Seigneur. Je crois que vraiment on doit s'appliquer. Dans Jean 10, verset 27, je ne sais pas si vous avez gardé la page, on va le relire quand même. On va lire Jean 10, 27, 28. Lisez-le avec moi. Ça détermine malgré tout, même s'il aurait fallu lire tout le chapitre, ça détermine quand même la gloire de Dieu. On pourrait lire dans l'Ancien Testament aussi, on n'a pas le temps. Jean 10, verset 27. « Mes brebis entendent ma voix. » Ce qui caractérise Une véritable brebis, ce n'est pas qu'elle est évangélique ou protestante, c'est qu'elle entend sa voix. Ce matin, normalement, si votre cœur est ouvert, au travers de ce culte, vous devez entendre Dieu vous parler par sa parole. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais de ma main, personne ne les ravira de ma main. Vous lirez chez vous dans Ézéchiel 34, 22, ne le cherchez pas, Ézéchiel 34, 22, « Je porterai secours à mes brebis ». Vous voyez, ce n'est pas nouveau dans la grâce, c'était aussi du temps de la loi. « Je porterai secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus au pillage. Je jugerai entre brebis et brebis, etc. » On voit que Dieu veut être le berger. Il sait ce qu'il doit faire. Si vous lisez Ézéchiel 34, vous verrez bien, bon, dans Jean, ça se voit, mais dans 34, Ézéchiel, ça se voit encore mieux. Dieu sait ce qu'il doit faire. Est-ce que Dieu sait ce qu'il doit faire avec vous? Où que vous soyez, Dieu sait ce qu'il doit faire. Il connaît vos limites. Il sait si dans 3 mois, vous serez épuisé. Est-ce que Dieu savait qu'en septembre 2011, j'aurais un AVC? Est-ce que Dieu le savait? Ou est-ce que Dieu s'est gratté la tête? Ah, tiens, il a eu un AVC, je n'étais pas au courant. Est-ce que Dieu le sait? Mais bien sûr, Dieu sait tout, il sait, on le chante, il sait si bien ce qu'il me faut, sur son amour, je me repose. Il connaît les limites, vos limites, il les connaît, nos limites, nos forces, notre intelligence, notre sagesse. Est-ce que Dieu le connaît tout ça? Mais bien sûr, Dieu connaît tout ça, il doit avoir tout prévu, oui ou non? Est-ce que Dieu peut avoir tout prévu? Mais bien sûr, le problème qu'il rencontre, le problème qu'il y a, qui empêche Dieu d'agir, c'est que nous ne lui faisons pas confiance. Si nous lui faisions confiance, je crois que ça permettrait à Dieu d'agir. Quel dommage qu'à cause de ce manque de confiance, nous pénalisons, mais nous pénalisons beaucoup les autres qui peuvent se tenir à distance parce qu'ils n'ont pas envie de rejoindre l'Église du Seigneur. Quel dommage, parce qu'on ne sait pas le nombre de chrétiens que Dieu veut sauver en 2013. Combien Dieu veut-il sauver de chrétiens en 2013? Est-ce que Dieu va en sommer 3 ou 4 à Toulouse? Ou peut-être un peu, ou 5 ou 7 ou 8? Ou un peu plus? Moi, je crois que Dieu veut sauver des âmes. Alors, nous ne tombons pas dans ces chiffres parce que ça ne se tient pas debout. Mais quand même, nous savons que tout a été préparé. Il faut que quand les gens viennent, ils découvrent cette paix qui doit nous caractériser. Ainsi de suite. Le problème, ça peut arriver. Je parlais tout à l'heure d'une dispute dans un foyer, d'un problème de témoignage, parce qu'on est fatigué, etc. Après, on réagit par l'évangile, bien sûr. Mais quand même, entre un problème relationnel qui peut se présenter, entre un problème de santé, de limite, etc., de faiblesse, bon, et vivre continuellement dans le doute, vous comprendrez qu'il y a une différence. Il y a quand même des chrétiens, vous le savez, vous en êtes malheureux, vous les voyez, ils sont continuellement dans le doute, continuellement dans la crainte. Je ne sais pas si on le réalise. Mais je ne sais pas si on réalise à quel point ça peut attrister le Seigneur. Vous vous rappelez Jésus? Jésus a rarement manifesté ses sentiments. Est-ce que Jésus manifeste ses sentiments? Non. Les quelques fois où il le fait pas pour lui, il le fait pour nous, pour que l'on comprenne le danger dans lequel nous nous mettons. Vous vous rappelez quand il a dit dans Luc 19, 41, ne le cherchez pas, en pleurant, parce qu'ils ne lui ont pas fait confiance. Vous vous rappelez, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Et quand vous lisez la suite, ça fait pitié. Le Seigneur Jésus a pleuré et il a dit, mais si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, si nous, frères et sœurs, nous connaissions, parce que le problème, il est là, c'est que peut-être que nous ne faisons pas suffisamment confiance parce qu'on n'a pas un cœur d'enfant, parce qu'on préfère avoir confiance en soi-même, mais mes frères et sœurs, quand Jésus exprime ses sentiments, c'est pour que nous comprenions bien ce à côté de quoi nous passons. Et là, il a dit en pleurant, ce n'est pas la première fois, il est le bon berger. Ça veut dire, je vais prendre soin de vous. Je vous aime et je sais comment faire. Prenons l'exemple. Ce matin, il y a une brebis perdue. Vous connaissez Luc 15. Il y a une brebis perdue. Qu'est-ce que Jésus va faire? Une brebis perdue, c'est quelqu'un qui s'est égaré, qui s'est échappé. Bon, voilà, il y a un fils prodigue dans l'église. Qu'est-ce que va faire Jésus? Vous connaissez la Bible? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui dire, ah mais qu'est-ce que tu fais là? T'as rétrogradé et tu reviens parce que t'as des problèmes. Ah, parce que t'as des problèmes, tu reviens. C'est comme ça que Jésus s'y prend? Comment il fait Jésus? Vous le savez, c'est implacable. si une brebis perdue est là ce matin, s'il y a ce qu'on appelle communément un rétrograde, vous savez ce que Jésus va faire. Vous le savez. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous prendre, il va vous mettre sur vos épaules et il va vous soigner, il va panser vos plaies et il va vous ramener à la maison. Voilà ce que c'est le bon berger. J'exagère ou non? Parce que nous, on a vite fait de dire à quelqu'un, ah, tu reviens, oui, maintenant, tu as des problèmes, et alors, et bien, t'as mieux. Mais voyez, mes frères et sœurs, comment on peut passer à côté, à cause de notre façon de voir, à cause de nos oui, mais, à cause de nos si, nous passons à côté. Alors, peut-être qu'en ce moment, et je termine avec cette pensée, peut-être qu'en ce moment, vous dites, oui, c'est bien joli ce que vous dites, c'est bien, mais moi, je traverse des difficultés. Parce que qui ne traverse pas de difficultés? C'est pour ça que nous ne jouons pas la comédie. Mais je le répète, ce n'est pas parce que vous traversez des difficultés que vous pouvez vous autoriser à rendre un mauvais témoignage. Comme cette chrétienne dont je faisais allusion tout à l'heure, et qui me dit, oui, vous comprenez, moi je suis découragée, alors vous comprenez, c'est comme ça. Moi je crois que ce n'est pas sérieux. Quoi que ce soit que vous êtes en train de traverser, vous pouvez vous appliquer à rendre un bon témoignage. Peut-être que vous dites, moi les verts pâturages, les eaux paisibles, monsieur Gau, c'est loin. Peut-être que vous pouvez le dire. Mais est-ce que Dieu est capable de changer les déserts en oasis? Est-ce que Dieu est capable? Est-ce qu'il l'a dit? Est-ce que c'est écrit quelque part dans le Saint-Livre que Dieu peut changer les déserts en oasis? Est-ce qu'il n'a pas promis qu'au lieu du cyprès, au lieu de l'épine, s'élèverait le cyprès? C'est Ésaïe 55. Au lieu de la ronce, bon, la ronce c'est l'image quand même de la malédiction, croîtrait la myrte. Ailleurs, les eaux jailliront dans le désert, les ruisseaux dans la solitude. Est-ce que vous le croyez? C'est ça la confiance. Oui, je suis dans un désert. Oui, je suis dans la ronce. Je suis dans embourbé dans un moment difficile. Mais est-ce que je le crois? Vous croyez les histoires de l'Évangile? Vous croyez qu'un jour Jésus est arrivé, il est marché sur l'eau, il est monté dans une barque et il a parlé à la mer. Silence, tais-toi. Est-ce qu'il peut le faire dans votre vie? Est-ce que vous êtes sûr que Dieu peut le faire dans votre vie? C'est ça le bon berger, il sait, c'est lui qui a provoqué cette tempête, il voulait qu'ils expérimentent certaines choses. Est-ce que vous croyez que Dieu peut dire à votre situation, silence, tais-toi? Peut-être qu'avant de le dire à la mère, il faudra qu'il vous le dise à vous, pour que vous compreniez bien ce qu'il a à dire. Je crois que c'est un de nos problèmes, on ne sait pas écouter. Et peut-être que c'est à vous qu'il va dire, silence, tais-toi. Mais il peut le refaire, et des milliers de chrétiens sont loin de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas cru ces choses. Si vous êtes ici ce matin, c'est parce que vous croyez ces choses. Alléluia. Heureux êtes-vous. Heureux êtes-vous. Si vous croyez que Jésus est votre bon berger. Heureux êtes-vous. Si vous pouvez dire oui, quelle que soit la bénédiction, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit l'opposition, quel que soit le chagrin. Je peux vivre avec mon bon berger. Il est le bon berger. Voilà comment le créateur de l'univers s'appelle. Tout le reste n'a pas d'importance. Ce que vous pensez, vos impressions, ce que vous êtes, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que vos yeux soient fixés sur le bon berger. Et il vous conduira. J'avais proposé qu'on chante un dernier chœur, un chœur tout simple. Un chœur qu'on chante souvent, vous l'avez mis, par ce qu'il vit, ça résume tellement bien l'Évangile. Est-ce que vous pouvez chanter ce cantique? Est-ce que vous pouvez le chanter? Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous pouvez dire, oui, il restaure mon âme. Il restaure mon âme, je me nourrirai de sa parole. Alors vous pourrez dire, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. En 2013, oui, dans le chagrin, dans l'épreuve, dans la difficulté, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Ça n'a rien à voir avec l'absence d'épreuve, ça a à voir au fait que Jésus est votre berger. On le chante, s'il vous plaît. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. Mais que nous restions vraiment dans cette attitude de cœur, que nous pensions à notre témoignage. Mais vivons ces choses. Elles sont simples. Non, vous avez bien fait de poser la question. Tu as oublié de le dire dans les annonces. Tu n'es pas un bon pasteur, Jérémy. Tu vois? C'est bien, c'est comme ça que Jésus aurait fait? C'est comme ça? Non, tu es un bon pasteur, Jérémy. Allez, on va se lever, on chante ce cantique. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Et je demanderai, j'ai vu parmi nous qu'il y avait quelqu'un de passage d'Angola, non? Il n'y a pas un jeune d'Angola, monsieur Rousseau-Julien? Que Dieu te bénisse, Julien. Ça me fait plaisir de te voir. Il y a ta petite bien-aimée avec toi? Marilia, tu ne te lèves pas? Alors on va chanter. Chanter.